Ah non, moi aussi, c'est un pied. Bon, alors bonjour à tous. Je remercie avant tout l'équipe de la MADES pour avoir mis en place ce colloque et proposé ce thème, ce que guérir veut dire, parce que personnellement, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma réflexion pour mon doctorat en ce moment, et ça m'a vraiment aidé. J'ai trouvé que c'était un thème très porteur. Je vais commencer par vous présenter le plan que je vais suivre. Donc d'abord, je vais vous parler du contexte de ma recherche en me présentant, entre autres. Ensuite, je vais vous définir et vous décrire quelles sont les pratiques de la périnéographie au Cambodge, puisque j'ai oublié de vous le redire, mais le titre de ma communication s'intitule « La périnéographie comme guérison de l'accouchement par voie basse à Phnom Penh au Cambodge ». Dans une troisième partie, je vais vous proposer de redéfinir l'accouchement par voie basse au Cambodge comme une expérience pathologique dont il faudrait guérir. Et pour conclure, je vais essayer de vous démontrer que le vagin est une porte en or pour accéder aux constructions sociales des normes corporelles et sexuelles au Cambodge. Donc je vais aller assez rapidement sur le contexte de ma recherche, sinon je ne vais pas tenir en 20 minutes. Mais donc je suis sage-femme depuis 10 ans et je finis en ce moment ma deuxième année de doctorat de sociodémographie sous la direction de Véronique Petit au CEPED, donc le Centre Population et Développement, qui est à Paris, dans une équipe de recherche qui travaille sur la santé et le genre. Et j'ai un contrat doctoral à l'Université Paris-Descartes. Ma recherche se situe dans une démographie compréhensive, dite aussi démographie de terrain, qui fait qu'on va s'intéresser à des questions de population, mais en essayant de se situer à un niveau micro, et notamment en utilisant une certaine méthode anthropologique. La problématique actuelle de mon doctorat est de savoir dans quelle mesure est-ce que les représentations du périnée au Cambodge vont avoir une influence sur les pratiques obstétricales à Phnom Penh. Et concernant les pratiques obstétricales, je travaille essentiellement sur l'épisiotomie, la périnéographie et la césarienne. Je considère les techniques obstétricales comme des techniques du corps, telles que Marcel Mauss les a énoncées, permettant d'avoir accès à tout un système de représentation du corps dans un contexte culturel donné. Mon cadre théorique s'inscrit aussi, entre autres, dans les travaux de Marie Douglas, considérant le corps comme miroir de la société, et dans une réflexion sur le corps, et plus particulièrement sur l'incorporation et les liens entre corporéité et intimité du corps et actes obstétricaux. Donc il s'agit essentiellement d'une recherche empirique où le terrain a été privilégié pour le moment. Donc c'est pareil, si vous avez des conseils, des réflexions, des remarques, je suis preneuse de tout parce que ça va beaucoup m'aider à théoriser notamment. Au cours de mes derniers terrains, j'ai favorisé l'observation participante où en fait j'endosse vraiment mon habit de sage-femme et je suis sur le terrain, dans les hôpitaux, dans les maternités, les cliniques. Je fais des accouchements, des examens, même si tout le monde sait que je suis là pour faire de la recherche, mais c'est mon observation participante. J'ai mené 66 entretiens semi-directifs auprès de soignants, gynécologues, obstétriciens, sages-femmes, mais aussi non-soignants. Et j'ai à peu près deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. Là, sur mon dernier terrain, j'ai essayé d'interroger plus d'hommes, parce que ça m'apporte beaucoup d'informations. Et lors de mon dernier terrain aussi, j'ai mis en place une petite cohorte avec un suivi longitudinal de 146 femmes enceintes au troisième trimestre de la grossesse, que j'ai revues après l'accouchement. Et les principaux thèmes que j'abordais étaient la sexualité, le périnée, la césarienne, voilà. Pour finir sur le contexte, le Cambodge aujourd'hui en 2015, c'est donc un pays d'Asie du Sud-Est qui compte 15 millions d'habitants. Le pays est aujourd'hui en pleine reconstruction après 150 ans d'influence extérieure, avec notamment un protectorat français jusqu'en 1953. Le régime sanglant des Khmers rouges entre 75 et 79 et un protectorat vietnamien jusqu'en 1989. Donc je pense que vous le savez tous, le Cambodge a vécu un terrible génocide qui a décimé un quart à un tiers de sa population, avec notamment la tentative d'éliminer les intellectuels et les médecins. Et les chiffres officiels annonçaient qu'en 1979, il ne restait que 54 médecins sur 487. Donc le système sanitaire est entièrement à reconstruire et au cours des années 2000, et pour la première fois dans l'histoire de la médecine cambodgienne, la médecine libérale a été légalement reconnue et aujourd'hui on voit des cliniques privées qui poussent partout, enfin vraiment de façon très très rapide. Donc là c'est la dernière que j'ai prise en photo en février dernier qui n'existait pas un an avant. Donc il existe une pluralité d'offres de soins publics-privés. Il y a une nouvelle génération de médecins qui est formée chaque année. Le gouvernement a beaucoup misé sur la formation des sages-femmes, notamment pour lutter contre la mortalité maternelle. Et voilà, à propos de mortalité maternelle. Et le Cambodge sera l'un des rares pays, a priori, à atteindre l'OMD5, donc l'objectif du millénaire pour le développement, qui est de réduire de 3/4 la mortalité maternelle entre 1990 et 2015. Dans ce contexte, on assiste à un changement important de certains comportements en termes de santé de la reproduction, et notamment avec des accouchements de plus en plus médicalisés, et les choses changent très vite aujourd'hui au Cambodge. Donc en 2000, on avait 89% de femmes qui accouchaient à domicile. En 2010, elles n'étaient plus que 45%. Vous voyez, en 10 ans, ça change très vite. Et l'indice synthétique de fécondité a également beaucoup diminué ces dernières années, passant de plus de 5 enfants par femme en 98 à 2,7 enfants par femme en 2014. Alors j'espère que... Enfin, je suis désolée pour les photos, mais je suis bien obligée de vous définir cette pratique de la périnéographie. Donc la périnéographie est une pratique chirurgicale utilisée de façon sporadique en France. Donc elle existe en France, mais elle n'est pas très fréquente. En France, elle est pratiquée chez des femmes plutôt, enfin généralement âgées, qui sont atteintes d'un prolapsus, donc d'une chute des organes, notamment une chute du rectum à travers le vagin. Et donc cette intervention chirurgicale, vise à couper les muscles, à enlever toute une partie de la muqueuse vaginale et à resserrer fortement afin de rétrécir l'orifice vaginal. Donc vous voyez bien sur cette planche anatomique des hôpitaux de la PHP, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris, on voit bien que l'orifice vaginal, il faut regarder en haut à gauche et en bas, disons. Et donc on voit bien que l'orifice vaginal après l'intervention est beaucoup plus étroit qu'avant et que la distance anovulvaire, qui est un repère anatomique qu'on utilise beaucoup en obstétrique, est beaucoup plus grande après qu'avant. C'est une pratique qu'il ne faut pas confondre avec l'épisiotomie et l'iménéoplastie. Bon, je ne détaille pas. Alors, si cette pratique est assez homogène en France, au Cambodge, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a vraiment une pluralité de pratiques autour de la périnéographie. Donc c'est une pratique qui est largement connue des hommes et des femmes, puisque quand j'ai posé la question aux 146 femmes, si le vagin est trop large après l'accouchement, on peut le faire rétrécir avec une intervention, 78% des femmes ont répondu oui et m'ont mentionné cette intervention. Donc comme je vous ai dit, il existe une pluralité de pratiques de la périnéographie. La technique n'est pas enseignée en école de sage-femme ni à l'université de médecine. Elle est apprise sur le terrain et tous les enquêtés biomédicaux ont souligné le fait que chaque médecin ou chaque sage-femme a une technique différente pour la faire. Et tous, ils me faisaient des dessins avec des techniques différentes. Donc à Phnom Penh au Cambodge, elle est le plus souvent pratiquée après un accouchement, donc soit au moment de l'accouchement, à ce moment-là on va faire une épisiotomie médiane, puis pratiquer cette périnéographie, mais on peut aussi la pratiquer quelques semaines, quelques mois ou quelques années après un accouchement par voie basse. Le plus souvent elle est pratiquée chez des multipares, mais parfois aussi chez des primipares, le plus souvent en clinique, mais parfois aussi à l'hôpital, le plus souvent à Phnom Penh, mais des entretiens en province ont montré qu'elle est pratiquée aussi, des femmes d'un milieu socio-économique élevé, mais des ouvrières du textile connaissent aussi très bien cette technique. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est un peu une pluralité. Et elle coûte entre 30 et 200 dollars. Et donc, c'est un extrait d'entretien, une gynécologue obstétricienne de 34 ans qui me dit « On met deux pinces au niveau des petites lèvres, on ferme, on met deux doigts dans le vagin, on demande à la femme si c'est la taille du pénis du mari. Si elle dit oui, on ferme jusque-là. » Donc là, j'ai essayé de vous faire des schémas pour voir si ça serait plus simple à comprendre, mais je ne suis pas sûre. Mais donc, à gauche, c'est avant l'accouchement et la périnéographie. À droite, c'est après. Et en fait, au milieu, j'ai essayé d'utiliser à peu près les mêmes repères. On voit qu'on a fait en plus une épisiotomie médiane, donc qui va vers l'anus. Normalement, on devrait la suturer jusqu'à la fourchette iménéale, là où était, ce qui correspondait à l'avant accouchement. Sauf que là, on a mis deux pinces, vous voyez, au milieu, ce qui correspond à peu près au milieu du vagin. Et c'est là où on va serrer les deux pinces en demandant la taille du pénis du mari. Et on va continuer à suturer jusqu'en haut. Et pour ça, on va abraser en fait les lèvres sur le côté pour que ça puisse après cicatriser. Donc c'est une pratique qui n'est pas nouvelle. Alors la chirurgie, dans les entretiens, j'ai réussi à remonter jusqu'à 1950. Et par contre, il y avait aussi tout un système de représentation qui faisait que ce n'était pas forcément une technique chirurgicale, mais tout un système de bains, de vapeurs, de postures chez les femmes cambodgiennes pour refermer ce vagin, pour que le vagin soit toujours serré, vraiment une représentation du corps qui fait que voilà, c'est une grande importance. Alors, je passe à la troisième partie. Je vous propose maintenant de redéfinir l'accouchement par voie basse au Cambodge comme une expérience pathologique dont il faudrait guérir. Les enquêtés ont tous mentionné qu'après l'accouchement par voie basse, le vagin est trop large, trop grand, trop gros. Soignants et non-soignants, hommes et femmes, s'entendent tous sur le fait que l'accouchement par voie basse déforme le vagin, et certains vont même parler jusqu'à parler de destruction. En mars dernier, par exemple, j'ai fait un entretien avec une femme de 33 ans, qui, lors de mon terrain, a accouché de son quatrième enfant. Pour ses deux premiers accouchements, elle avait accouché par voie basse dans un hôpital public. 7 ans après son deuxième enfant, elle est allée dans une clinique se faire coudre. Et du coup, pour son troisième et quatrième accouchement, elle a décidé d'accoucher en clinique pour ne pas abîmer son vagin qui avait été cousu et pour ne pas abîmer son périnée. J'ai oublié de vous dire que cette périnéographie, au Cambodge, les soignants disent périnéo, et par contre les hommes, femmes non soignants disent de oi sa hat, ce qui veut dire littéralement coudre pour être belle. Du coup, dans les entretiens, je vais vous dire coudre. La pratique de la césarienne permet d'éviter cette destruction. À Phnom Penh, aujourd'hui, cette pratique est en constante hausse et atteint des taux très élevés. Les soignants expliquent ces taux élevés de césarienne par une demande des patientes, et ces demandes sont majoritairement acceptées par les soignants. Et certaines demandes, pas toutes, mais certaines, sont pour protéger le périnée. Donc là, je vous ai mis un autre extrait d'entretien avec un interne homme de 25 ans qui dit « Parce que plus de femmes enceintes veulent la césarienne maintenant, à cause de la douleur et de l'esthétique vulvo-périnéale, elles pensent que la tête fœtale est grosse et donc ça va entraîner des modifications qui vont élargir le canal vaginal et aussi avoir des déchirures. Ce n'est pas esthétique et ce n'est pas bon pour la sexualité aussi. » Je me suis demandé quelle était la norme de référence quand on devait coudre le vagin après un accouchement voie basse, à quelle étape qu'il fallait retourner. Et donc si certains enquêtés mentionnent l'état de virginité, la majorité ne mentionne pas forcément cette virginité, mais disent il faut redevenir comme avant le premier accouchement. Donc là, un médecin me dit, par rapport à la primigeste qui n'a encore jamais accouché, il faut avoir le vagin comme avant le premier accouchement. Le vagin parfait, c'est avant le premier accouchement. Il faut être comme avant. Donc, d'après les différents entretiens, l'accouchement par voie basse semble donc être destructeur pour le vagin. Et une façon d'en guérir serait la périnéographie. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que cette destruction du périnée est menaçante. Deux raisons étaient évoquées lors des entretiens avec les femmes. Les femmes me disaient souvent « se faire coudre, c'est pour deux choses, pour le plaisir de mon mari et pour ma santé ». Nous allons voir que si cette destruction est particulièrement inquiétante, c'est effectivement parce qu'elle menace directement deux acteurs. La femme, d'une part, elle-même, dont l'équilibre vital risque d'être rompu, et son mari, avec une atteinte directe de son plaisir sexuel. Donc là, je vous ai mis des photos pour vous parler de l'ouverture destructrice qui met en danger l'équilibre corporel. La façon dont les Khmers se représentent la maladie et le corps repose sur un ensemble de représentations diverses. Une de ses composantes, dans la représentation symbolique du corps, est l'influence de la médecine ayurvédique, qui est basée sur une conception humorale et énergétique du corps, telle que l'a très bien décrit Anne Guillou. Dans les maternités de Phnom Penh, cette représentation du corps par la circulation de ses flux corporels est particulièrement visible, car la période du postpartum est révélatrice de ce système des humeurs, car il va y avoir de nombreuses prescriptions et interdictions qui vont tenter de maintenir le système en équilibre. Je n'ai pas le temps de développer, mais il existe toute une symbolique de l'ouverture au moment de l'accouchement autour de la femme accouchée. Cette ouverture semble dangereuse puisque l'accouchée est alors plus exposée aux esprits, notamment, esprits qui peuplent largement le Cambodge. Mais une ouverture dangereuse aussi face aux maladies, notamment toutes les maladies liées au vent. Les oreilles, par exemple, vont devoir être obstruées par du coton, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Et il va y avoir aussi le port d'un krama ou d'un bonnet pour éviter que l'air n'entre dans l'orifice des oreilles. Car si l'air entre dans les oreilles, cela va entraîner des céphalées et des bourdonnements d'oreilles dans le futur. Bon, donc là, c'est des photos que j'ai prises lors de mon dernier terrain à Phnom Penh. Dans cette symbolique du corps, il faut donc maîtriser l'ouverture et la fermeture de ses orifices. Le vagin est élargi après un accouchement par voie basse pour 92% des femmes que j'ai interrogées. Donc, sur les 146 femmes, est-ce que le vagin est élargi après un accouchement voie basse? 92% me répondent que oui. Une des craintes omniprésentes chez les femmes cambodgiennes est la peur du prolapsus. Le prolapsus revient tout le temps, dans tous les entretiens, dans tous les discours des femmes. Le prolapsus, ou chute des organes féminins à travers le vagin, était une des motivations de la pratique des périnéographies, puisque de nombreuses femmes disaient qu'il fallait pratiquer cette périnéographie pour ne pas que l'utérus tombe dans le futur. Et je pense donc que cette pratique chirurgicale de la périnéographie vient s'inscrire dans cette symbolique du corps, de l'ouverture et des orifices qu'il faut absolument maîtriser. Après, il y a d'autres discours complémentaires. D'abord, le discours dominant, modeler un vagin à la taille du mari. Dans de nombreux entretiens, les soignants, donc gynécologues, obstétriciens et sages-femmes, ou les personnes accompagnant la femme qui a couché, mari, sœur, mère, ont évoqué un vagin qui devait être modelé à la taille du pénis de l'homme. Ainsi, l'homme ou la femme, donc soit le mari, soit la femme qui accouche, doit montrer avec ses doigts la taille du pénis de son mari, comme ça. Des photos de différents vagins ont été aussi proposées à des maris après l'accouchement, qui pouvaient ensuite choisir celui qui leur conviendrait le mieux et que l'on allait façonner sur leur épouse. Lors des entretiens quantitatifs que j'ai menés, plus de la moitié des femmes interrogées affirment que le plaisir de l'homme est diminué si sa femme a accouché par voie basse. Ce plaisir est très présent dans tous les entretiens avec les hommes. Donc je vous cite un homme de 34 ans qui m'explique ce que je vous ai dit. Après l'accouchement, les sages-femmes ont demandé si on a besoin de coudre le vagin en expliquant qu'il fallait payer plus cher. Les sages-femmes ont fait des propositions. Elles ont montré des images sur leur téléphone portable. Elles ont montré différents vagins et il fallait choisir le vagin. Elles ont montré 4 ou 5 vagins différents et j'ai décidé. J'avais 5 minutes pour décider. Un autre homme de 36 ans me dit « C'est pour attirer ou capter l'attention du mari. Surtout pour les femmes accouchées, elles ont le vagin large et là, ça ne donne plus du tout envie d'avoir un rapport avec elles. Ici, on pense, et ça c'est vraiment important, si le vagin n'est pas étroit, ça ne donne pas l'attention du mari. Et c'est sûr, le mari va trouver quelqu'un d'autre. » Donc c'est à travers ce vagin qui doit être taillé sur mesure pour son mari que la sexualité conjugale se transforme ici en sexualité de service, avec les mots de Paola Tabé, une sexualité qui doit satisfaire le plaisir sexuel masculin et où la sexualité des femmes est censurée. Le discours des soignants. Dans le discours des soignants, revenait constamment cette idée d'un service rendu aux femmes à travers la périnéographie. Avoir un vagin bien serré permet à la femme, guérie par la périnéographie, de garder son mari à la maison. Une gynécologue obstétricienne de 40 ans me dit « Si vous n'aidez pas les femmes, c'est difficile pour les rapports, parce que parfois son mari va chercher ailleurs. Et moi, je pense que la vie sexuelle est importante et que l'homme va chercher d'autres femmes si le vagin est trop large. Les prostituées ont le vagin serré. » Et un gynécologue obstétricien de 41 ans, lui, me dit « C'est pour serrer le périnée. Serrer le périnée, c'est pour mieux attirer l'amour. Sinon, les hommes vont voir les prostituées. Les hommes cambodgiens aiment voir les prostituées. C'est plus de 90% des hommes. Quand une femme entend son mari dire « Ce n'est pas bon, c'est trop large » au moment d'avoir du sexe, elle revient faire serrer son périnée. » Discours des femmes. Donc vraiment, les soignants, dans les discours des soignants, revenait toujours cette idée qui rendait service aux femmes à travers cette pratique-là. Dans le discours des femmes, il fallait se protéger, ressortait toujours la volonté de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, mais au-delà de ça, la volonté de protéger sa famille. Garder son mari à la maison ne semble pas être une finalité en soi, et quelques femmes exprimaient qu'une des raisons pour lesquelles elles ne voulaient pas que son mari aille voir ailleurs, ou aille voir des prostituées, était la peur des maladies. Une femme me dit « Si je me fais coudre, alors mon mari va rester avec moi, et moins aller voir les prostituées. » Donc, le pourcentage de maladies diminue. De la même façon, de nombreuses femmes expliquaient que leur mari pouvait sortir pour avoir des rapports sexuels pendant la grossesse et la période après l'accouchement, du moment qu'il se protège des maladies sexuellement transmissibles. Ces maladies prennent aussi une dimension familiale, à travers cet entretien avec un homme de 64 ans, qui a deux filles et qui explique « Si je devais aller chercher une autre femme, et si j'attrape une MST, cela donne une mauvaise réputation à ma famille. C'est un scandale, surtout pour mes filles. » On observe dans les différents discours un lien étroit entre sexualité du mari avec une prostituée et peur de la souillure. Une souillure qui, par contagion, pourrait se répandre à l'ensemble de l'unité domestique. Par ailleurs, la femme, par la périnéographie, semble à travers cet acte s'opposer en rempart contre cette souillure et préserver l'ordre moral de la famille. Enfin, avant de conclure, le discours des hommes. Le plaisir sexuel physique protégé par un vagin étroit et serré a été évoqué de façon majoritaire avec des détails mécaniques des hommes tels que le frottement, la sensation, une meilleure érection. Mais le lien entre périnéographie et sexualité ne se limite pas à ce plaisir physique et il le dépasse à travers tout un système de représentation. La virginité est une norme sexuelle au mariage encore très forte aujourd'hui à Phnom Penh, même si les enquêtés disent tous que ça évolue de façon très rapide. Mais pourtant, parmi les 146 femmes que j'ai interrogées pendant leur grossesse, 88% ont dit être vierge, avoir été vierge au moment de leur mariage. La virginité en Khmer se dit bodhisattva, ce qui veut dire la pureté. Et donc il existe un rapport étroit entre une femme pure et une femme vierge. Si la périnéographie n'a rien à voir d'un point de vue biomédical, d'un point de vue de la technique chirurgicale biomédicale avec une hyménéoplastie ou une hyménéographie, on voit bien qu'il y a quand même un lien étroit, parfois dans la représentation symbolique du vagin. Un beau vagin serait un vagin étroit, bien refermé, et cette représentation entraîne avec elle l'image de la jeunesse et de la pureté. Cette image s'accompagne aussi de nombreuses valeurs morales valorisées au Cambodge, telles que la timidité et la pudeur. Un homme exprime que si une partenaire sexuelle a le vagin serré, c'est une femme jeune, avec la beauté et pas de partenaire. Et un autre dit « On pense qu'une femme qui a un vagin étroit, c'est une femme qui n'a pas eu d'autre homme à part nous. » Je conclue, juste pour vous dire, que je voudrais, donc vous avez compris, hein, je voudrais juste insister sur le fait que le vagin est une porte en or pour accéder aux constructions sociales des normes corporelles et sexuelles au Cambodge et permet de replacer le corps au cœur de l'analyse. D'ailleurs, la linguistique vient conforter cette approche et l'importance du vagin au Cambodge puisque le vagin en Khmer se dit Tuya Mea, Tuya signifiant la porte, Mea l'or. Et donc il s'agit bien d'une porte en or massif et non d'une porte dorée sur laquelle on aurait seulement passé une couche de peinture dorée, comme l'a souligné un de mes enquêtés. Merci pour votre attention.
Merci. Merci pour cette étude d'un angle d'approche du coup assez peu vu, hein, on peut dire. C'est vrai que j'ai rarement entendu ce genre de... Donc très intéressant. Voilà, moi j'ai juste une petite question. Bon, on n'a pas énormément de temps, mais je pense qu'on peut quand même se laisser une petite dizaine de minutes. Je voulais savoir si t'avais prévu ou si tu avais déjà fait une mise en perspective avec justement les représentations du périnée et du vagin, etc. qu'on trouve ici, parce que je trouve qu'il y a une. Alors on va le mettre davantage sous une justification médicale, mais il y a quand même une pression sur la rééducation périnéale. Pour nous aussi dans notre contexte, et je voulais savoir si voilà c'est quelque chose que tu abordais si tu en savais dans la tête davantage.
Non, alors aujourd'hui j'ai pas encore travaillé là-dessus. Enfin, j'y pense, mais je l'intègre pas vraiment dans ma thèse parce que je me concentre sur Phnom Penh. Mais effectivement, on voit tout ce qui s'est passé avec le quand on a parlé du point du mari il y a un an ou deux, ça a fait tout un buzz sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez suivi. Où on a dit que certaines sages-femmes ou certains médecins, surtout je crois que c'était un médecin homme qui au moment de suturer l'épisiotomie faisait un point de plus pour le mari. C'est sûr que c'est très tentant en fait de... Enfin moi j'ai... En fait en plus en 2004-2005 j'ai travaillé comme sage-femme, pas du tout comme... Enfin pas en rapport avec les sciences sociales mais au Burkina Faso et au Mali. Pareil j'ai envie de travailler sur les mutilations sexuelles, sur l'excision et j'aimerais essayer de trouver un peu des universaux, des choses transversale, mais pour l'instant je peux pas parce que j'essaye de me concentrer sur le Cambodge et déjà c'est un peu pas difficile, mais voilà, j'essaye de me concentrer et dans un second temps j'aimerais beaucoup faire ça.
Oui, juste pour rester sur une question, en fait, très bêtement, est-ce qu'une rééducation périnéale peut avoir les mêmes effets réparateurs qu'une réparation chirurgicale? C'est ma question.
Non, alors.
Parce qu'en termes de descente d'organes, oui, puisque c'est comme ça.
La périnéographie, c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas en tant que sage-femme. Donc après avoir travaillé 10 ans en France, je suis arrivée au Cambodge. En fait, il y avait des épisiotomies systématiques. Donc dans l'hôpital où j'étais, quasiment 100%. Je leur dis, mais pourquoi vous faites autant d'épisiotomies? Ils me disent, à cause de la périnéo. Donc là, vraiment, je ne comprenais pas. J'étais en Master 2, je travaillais sur le fœtus. Ce n'était pas du tout ce sujet-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert la périnéographie et que je l'ai pris après comme sujet de thèse. Mais la rééducation du périnée n'existe pas au Cambodge. Et quand je leur en parle, alors après, excuse-moi, je répondrai à Taxi. Quand je parle de rééducation du périnée, ils disent, ah non, mais nous, les femmes, elles veulent quelque chose de radical et puis elles vont payer une fois, elles ne vont pas venir 10 fois à 10 séances différentes. Bon, de toute façon, c'est sûr que tu n'as pas les mêmes résultats avec une rééducation où tu vas rééduquer un plancher musculaire, remuscler, et une périnéographie. Mais en l'occurrence, là, moi, 95% des périnéographies que j'ai vues, elles n'étaient pas nécessaires d'un point de vue physiologique, et c'est des cas où une rééducation du périnée aurait été largement suffisante, tu vois. Et puis, il y a de nombreux témoignages ou entretiens où des femmes ou des soignants me disent qu'après une périnéographie, des femmes ne peuvent plus avoir de rapport sexuel, ne peuvent plus avoir de pénétration parce que l'orifice est trop étroit. Parce qu'une des tendances actuellement, c'est de le faire au moment de l'accouchement, parce que les femmes disent qu'elles ne veulent pas souffrir deux fois, donc elles le font une fois au moment de l'accouchement, sauf qu'au moment de l'accouchement, les tissus sont très distendus, et donc les soignants, ils coupent, ils suturent, mais tu vois, bon, voilà.
Avec enthousiasme. Yann, moi je voulais savoir si c'était une... Du coup, ça a l'air d'être quelque chose de ancien, qui ne date pas juste de l'arrivée de la biomédecine. Et donc avant, il faisait... Enfin, ça existait déjà avant cette...
En fait, j'arrive pas... c'est quelque chose de difficile sur mon terrain. J'ai réussi à remonter à 1950, mais c'est avec de la chirurgie. Et justement, je leur dis, mais avant qu'il y ait la médecine comme ça, les hôpitaux, est-ce que les sages-femmes, elles le faisaient avec des épines, peut-être elles suturaient ou des choses comme ça? Et ils ne savent pas parce qu'en fait, ceux qui me répondent là, ce sont des biomédecins. Et en fait, il y a une clinique où ils font 100% de périnéographie au moment de l'accouchement, à Phnom Penh, où ils font 3500 accouchements par an, et donc 100% de périnéographie. Donc là, sur mon troisième terrain, j'ai enfin réussi à rentrer dans cet hôpital. Et celui qui détient la clinique a 41 ans. En fait, il gère la clinique, mais c'est sa belle-mère qui a 65 ans, c'est difficile en plus parce qu'elle est secrétaire d'État au ministère de la Santé. Et donc, c'est elle à qui appartient la clinique et qui a enseigné à ce gynécologue cette technique-là. Et ce gynécologue me dit, non, mais ma belle-mère, c'était déjà son professeur d'avant qui lui avait enseigné, qui a aujourd'hui 90 ans.
Oui, voilà.
Mais ce sont des biomédecins et j'arrive pas à passer dans la sphère...
Parce que quand les grand-mères, elles peuvent pas dire.
Ben oui, c'est ça.
Bah, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que d'un point de vue linguistique, il y a une... En fait, on dit « déoy saat », donc c'est coudre pour être joli, mais les femmes ne peuvent pas savoir si on a fait une épisiotomie et qu'on a suturé une épisiotomie, ou elles ont eu une déchirure et on a fait un ou deux points, ou si on a vraiment fait une périnéographie en resserrant...
C'est pas ça, peut-être que les grand-mères, elles pourraient dire si c'était quelque chose d'important.
Ah bah ça, elles le disent.
Des techniques traditionnelles.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Oui, c'est ça.
Avec, oui, oui. Voilà. Et c'est vraiment une représentation qui est ancrée. Oui, oui. Si on en reste aux représentations, c'est très ancien. Ouais.
Excusez-moi, je donne la parole à Yannick. Oui, non, il n'y a pas.
C'est pas une histoire.
Je les ai laissés.
C'est qu'une histoire de femme.
Oui, mais c'est un peu ça. Mais ça résonne pour moi avec d'autres pratiques, par exemple la très forte prévalence des césariennes au Brésil, où là aussi il y a des arts du corps qui sont faits pour. À la fois des raisons esthétiques, à la fois le ventre, mais en même temps, c'est pareil, une sorte de rétrécissement du vagin pour garder le mari. Et il me semble qu'il y a une dimension transversale, alors, tu vois, qui recherche des sortes d'universaux, etc., mais qui ne passe peut-être pas directement, pas uniquement en tout cas par ces questions d'esthétique, enfin de chirurgie esthétique. C'est surtout cette confusion qu'il y a toujours, enfin les dimensions entre la sexualité, la fécondité et l'accouchement, qui sont souvent confondus à juste titre dans le monde médical, mais que nous, on est obligés de déconstruire. Et on voit bien que, par exemple, un des problèmes en Afrique touchant à la réduction des naissances, c'est que la contraception vient dissocier la sexualité de la fécondité. En gros, si je prends de la contraception, c'est pour dire j'ai le droit de jouir de mon corps. Et en fait, on a le droit de vouloir réduire sa fécondité, mais on n'a pas le droit d'affirmer son désir. Et là, c'est d'une certaine façon, c'est un peu pareil. C'est, on voit bien ce moment de la fécondité qui est redoublé par une dimension par la sexualité. Et je pense qu'il y aurait sans doute un fil conducteur à essayer de voir tous ces moments qui sont discontinus, où la fécondité et la sexualité sont en lien. C'est une première piste. Deuxième, c'est sur les manières de corps. Alors, j'entends bien la médecine ayurvédique, mais en même temps, il y a d'autres modèles, par exemple, qui sont décrits par Van Gulik sur la vie sexuelle en Chine ancienne, qui sont des superbes livres, et où en dehors du mec qui prend son pied, justement en touchant le pied de la jeune femme, on voit bien que là, il y a tout un art de retenir l'homme, et l'homme doit aussi se retenir, et c'est un art des englobements et de la maîtrise. Et je pense que, d'après ce que dit Van Gulik, autant que je m'en souvienne, en Chine ancienne, il y avait aussi un art du vagin étroit. Alors, je ne sais pas, je connais mal ce point-là, mais je ne sais pas par où c'est passé de la Chine au Cambodge, mais on n'est quand même pas loin, et je pense que ces arts du corps qui datent de la Chine ancienne ont dû être présents, ou en tout cas se transmettre au Cambodge. Et le dernier point, c'est que il y a quand même aussi, alors il y a quelque chose qui est extrêmement important actuellement, c'est tous les films pornographiques qui doivent passer quand même en Cambodge, avec des sexes rasés, avec des postures amoureuses, etc. Et je pense que là, il y a ce qu'on appelle des scripts mondialisés qui se diffusent un peu partout. Et ça, je pense que ces scripts mondialisés, ils sont extrêmement présents aussi au Cambodge, sont peut-être autant, en tout cas, que la médecine ayurvédique. Et je pensais aussi aux remarques de Riti Pan dans l'élimination, où Riti Pan dit qu'au Cambodge, maintenant, on ne peut plus parler d'amour, parce que les Khmers rouges disaient « Venez, c'est une relation d'amour ». Et en fait, ils mariaient de force des jeunes filles et des Khmers rouges, simplement pour de la fécondité, mais pas pour de la sexualité. En tout cas, pas pour du rapport amoureux. Et je pense que quand même, dans le traumatisme social, ce qui s'est appelé la révolution Khmer, il y a quand même cette atteinte à la relation amoureuse et ce dévoiement de la sexualité pour des raisons de fécondité. J'étais un mauvais anthropologue, un peu machin politique, France Culture, ce serait très facile d'avoir un argumentaire en disant que le rétrécissement du vagin est une façon pour les femmes de protester contre la révolution Khmer. On pourrait avoir comme ça un gouvernement des corps inversé. Ça, je suis sûr que ça passe à France Culture, ça marche. Mais bon, c'est sans doute, c'est un peu massif. Mais je pense que très légèrement, quand même, cette dimension historique de la détérioration de l'amour par le discours khmer, je pense que ça va être extrêmement prégnant. Enfin, il semble.
Je vous remercie pour cette session. Je suis désolée, on va devoir clore. Je vous propose de continuer, de poursuivre à l'extérieur. Des questions. Sûrement, il est déjà là, il a dépassé un quart d'heure. Merci en tout cas.
Juste pour dire, on s'arrête de façon un peu.